complètement ce fléau, il faut que chacun d'entre nous essaie de concevoir et d'imaginer ce qui se déroule dans l'esprit envoûté des toxicomanes. Par exemple, un toxicomane sous l'empire des drogues appelle le mégot un roach, un cafard, disons. Car il y voit un genre de cafard. Or, ce genre de comparaison morbide...
Putain, mais de quoi il parle, ce con-là? Il faut être raide à l'acide pour trouver qu'un joueur ressemble à un cafard. Tu te merdes.
Tous les lundis, à 21h, sur Radio Canu.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus.
Cannabis Circus, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Canus en 2.2 MHz et c'est comme tous les lundis soirs, et ben là, l'émission du cirque du collectif d'information et de recherche cannabique.
Bonsoir.
Alors, aujourd'hui, plein de choses dans l'actualité, le rapport de l'OFDT. Avec, ça change un peu, le cannabis baisse un peu, le tabac baisse beaucoup et l'alcool continue à baisser, mais toujours de façon très lente. On reviendra sur tout ça, on reviendra aussi sur la Creuse, Eric Correra, qui veut faire du cannabis thérapeutique et qui veut en planter partout en Creuse. Il veut développer ça en Creuse, et puis il y en a d'autres. C'est l'Ouest France qui nous apprend ça dans l'Orne. Ils veulent, au cours d'une réunion citoyenne, l'idée a été lancée de faire un test sur l'Orne, de faire une légalisation pour voir comment ça se passerait. Voilà.
Ouais, il y a des députés un peu de province, quoi, localement, qui ont des propositions à faire.
Voilà, qui vont à la consultation des habitants.
C'est nouveau.
On va voir ce que ça donne.
C'est pas mal.
On s'attend à pas grand-chose, mais bon, c'est peut-être pour ça qu'on sera surpris. Sinon, on a beaucoup de choses. C'est dans l'Humanité, ils ont fait un grand article sur la contravention en invitant plein de gens comme Bernard Bossuet, qui est un addictologue.
Basset.
Avec un addictologue, donc lui qui trouve que le texte est à côté de la plaque. Béatrice Steinberg, une
Stamboul.
À chaque fois, je l'ai.
Ouais, c'est pour ça que je se surveille.
Qui est psychiatre et qui trouve que c'est une fausse bonne idée. Alors ensuite, on a Bertrand Dotzenberg, qui lui est médecin. Alors lui, il trouve ça acceptable. Bon, il en faut un. Nous avons Renaud Colson aussi, maître de conférence en droit, qui lui trouve que c'est un toilettage législatif. Et il dit, attention, il y a un transfert de pouvoir du juge au policier. Et ça peut être dangereux. Enfin, Benjamin Jean-Roy, qui dans le réseau Écho, qui lui parle de politique publique. Bon, bref, il dit des petites choses. En tout cas, un très bon article, un bon dossier dans l'Humanité, assez complet. On y trouve une bonne partie des arguments. Voilà, pas tout, mais c'est pas mal. Sinon, après, on a deux articles.
dans Vice.com, oui.
Vice.com. Alors, l'un de Karim, qui nous fait le point de vue des dealers. Quoi. Le point de vue d'un dealer, en tout cas.
Ce qu'il dit est très intéressant.
Tout à fait. Ouais. Il enfonce beaucoup de portes ouvertes, mais néanmoins, il dit des choses intéressantes. Canada, le Parti libéral, donc toujours dans Vice.com, pourquoi faut-il tout légaliser, donc légaliser toutes les drogues? C'est le Parti libéral qui lance le débat, maintenant ils viennent de passer à la légalisation du cannabis, et se posent la question de tout le reste, c'est bien, au moins des gens qui réfléchissent. Je sais pas si on arrivera aussi loin, mais bon.
Après une interview d'Emmanuel Auriol.
Tout à fait.
Dans Atlantico.fr.
Voilà. Pourquoi et comment l'État doit reprendre le contrôle du marché. Puis après, bon, on apprend des petites brèves par le point que Louis Sarkozy, donc un des fils de notre ex-président, est pour la légalisation. Mine de rien, les arguments loin d'être bêtes. Et enfin, ce dont on parlera sûrement pas, et donc on va peut-être parler un tout petit peu maintenant. C'est le TPI, donc le Tribunal Pénal International, qui se pose des questions sur les Philippines et qui veut essayer de mettre le shérif
Duterte, Rodrigo Duterte,
sur la sellette.
Ben oui, peut-être une action envers la Cour pénale internationale pour les nombreux crimes dont il est l'initiateur. Hein.
Ouais, donc a priori ça va être difficile, il y a de grandes chances qu'il soit dessaisi mais que ça continue quand même. En tout cas on en est aux prémices, mais bon c'est quand même intéressant que les gens qui tuent et qui laissent tuer sans discernement puissent être emprisonnés et arrêtés.
Ouais.
Peut-être une... voilà, mais je crois pas trop à tout ça. En tout cas si ça aboutit ça sera pas avant 10 ans
minimum.
Au minimum, voilà, ça sera dans les années 2030, pas peu dire.
Voilà, bah disons que oui, c'est
parce que non seulement on sait qu'il y a eu plein de massacres, de mais ce qu'il faut arriver à prouver, c'est qu'il y a il faut arriver à prendre un exemple, le prendre en exergue et arriver à démontrer et à prouver qu'il y a eu toute une machination derrière. Ce qui est loin d'être facile, voilà, mais bon, en tout cas, la CPI donc, va là-dessus. Il y a 2-3 articles qui parlent de ça. Hein.
Il y a un communiqué de presse du cirque aussi, à ce sujet, à la fin.
D'accord.
Mais bon, peut-être n'aurons-nous pas le temps d'y arriver.
Bon, on va peut-être juste lire ce communiqué de presse et après on partira en musique. Si
allez,
tu veux bien, moins que...
t'as raison. Je suis d'accord, je le lis si tu veux. Donc la CPI peut-elle vraiment juger un des petits soldats de la guerre à la drogue? C'est la question que nous devrions nous poser au regard des potentielles poursuites que la Cour pénale internationale pourrait engager à l'encontre du sinistre président philippin Rodrigo Duterte. Que lui reproche-t-on en réalité, si ce n'est d'avoir pris au pied de la lettre depuis 2016 l'appel lancé par le président états-unien M. Richard Nixon il y a près d'un demi-siècle, appel régulièrement repris par certains de ses successeurs et homologues étrangers? Car c'est de ça dont il s'agit, de cette ignoble et destructrice guerre à la drogue, criminogène autant que meurtrière et dont les cibles sont principalement les petites mains exploitées par des réseaux criminels, ces fourmis, mules et autres modestes paysans amenés à se vendre pour éviter de sombrer dans la misère. Dans les pays occidentaux, ce sont surtout les usagers stigmatisés et harcelés par les forces de l'ordre refusant d'admettre l'absurdité de la loi et l'inefficacité de sa mission. Ce n'est donc pas un homme, aussi ignoble soit-il, que la CPI devrait juger, mais un dispositif international instauré il y a près d'un siècle par un courant autoritaire et moraliste venu d'Amérique du Nord. Ce système prohibitionniste sévèrement remis en question depuis quelques années et dont on peut désormais compter les jours. Il n'en demeure pas moins que pour l'heure la route menant à sa complète abolition à la couleur du sang, celui entre autres de nos camarades amateurs de drogue philippins. Voilà, alors moi j'ajouterais juste un petit truc. C'est que je pense que la Cour pénale internationale n'a pas à prendre en compte ou ne prend pas en compte ou peu en compte, je sais pas, la popularité du politicien qu'elle vise. Mais voilà, enfin, rappelez quand même que aux Philippines, Rodrigo Duterte a été élu à une large majorité et que ce qui a fait le succès de son élection, c'est justement malheureusement parce qu'il avait pointé du doigt, stigmatisé. La drogue, les usagers de drogue et les dealers, et qu'il avait dit qu'il s'en débarrasserait. Voilà, donc c'est quand même un problème particulièrement compliqué. Je rajouterai juste une dernière chose avant d'écouter un peu de musique, c'est que ce qu'on voit, c'est que les plus zélés défenseurs de la loi contre l'usage de drogue sont les leaders de pays pour lesquels, contre lesquels on a très autoritairement imposé, on a fortement poussé ces États à signer les accords internationaux dans les années 60, et qu'à l'époque ça allait pas du tout de soi en fait. Les leaders de ces pays étaient pas spécialement d'accord et ils l'ont fait vraiment suite à des pressions assez importantes des États-Unis, mais ce qui est le cas aussi de la France, hein. Puisque la Philippine, je pense aux Philippines, mais à l'Indonésie également, qui sont des pays producteurs avec des traditions de l'usage de certaines substances et de certaines plantes psychotropes. Et que, voilà, aujourd'hui, on en est là, les plus zélés défenseurs des lois anti, des lois pro-drogue en fait, enfin contre la drogue en fait, sont ces pays-là qui étaient les plus réfractaires à l'adoption des dispositions internationales. Voilà, c'est bien triste. Allez, on va s'écouter un peu de musique, puis on va s'intéresser un peu au rapport de FDT.
Allez, Sergent Garcia à Cabar Mal.
Thank you.
y revoilà. Après tout ça, après donc s'être écouté tranquillement, Sergent Garcia, et ben nous y revoilà avec notre vue de presse et donc notre fameux rapport de l'OFDT qui vient de retomber comme chaque année.
Oui, alors c'est le rapport qui se base sur l'étude Escapade qui s'appelle Enquête sur la santé et les consommations lors de l'appel de la préparation à la défense. Donc c'est un questionnaire qui est soumis aux appelés, on aurait dit avant les appelés du contingent, les gens qui partaient pour le service militaire. Bon, maintenant, plus de service militaire, on le sait bien, mais bon, en tout cas, il y a toujours cette journée de préparation à l'appel, blablabla. Et on fait passer donc on fait faire une enquête aux jeunes qui sont appelés sous les drapeaux. Voilà, donc c'est ça l'étude de l'OFDT, en fait, c'est d'après l'étude Escapade, voilà, qui est menée auprès de 46 054 adolescents de 17 ans. Et donc, nouveauté cette année, pour la première fois depuis 2000, de quoi on s'aperçoit ?
Ben, le cannabis a baissé.
La consommation. Le taux de consommation. Le niveau de consommation
a baissé. Donc moins de 4 jeunes de 17 ans sur 10 affirment avoir fumé du cannabis, alors qu'avant c'était...
Presque 5.
Presque 5, voilà, tout à fait. Voilà. Presque 9 points de moins qu'en 2014 et donc 10 points de moins que depuis 2000. Voilà, ça c'est le constat. Donc après, bon, plein de petites choses différentes sur le taux des expérimentations a davantage baissé depuis 2014 chez les filles que chez les garçons. Voilà, donc des petites nuances. Bon, faut aller voir le rapport, hein, si vous tapez rapport au FDT, vous avez plein de choses pour en savoir plus. Dans les choses qu'on peut noter quand même sur le cannabis, c'est que dans ceux qui ont fumé une fois dans l'année, c'est-à-dire un quart, contre un sur cinq, en 2014, et avec alors les 7,4% d'adolescents de 17 ans qui ont une consommation problématique, je ne sais pas comment ils peuvent la dire, si c'est les jeunes qui doivent avoir accroché la
question,
case, peut-être.
Pas très fiable. Mais...
Voilà, si c'est... Bon, et c'est vrai que les jeunes, d'une année à l'autre, je suis sûr qu'il doit y avoir des variations aussi de véracité. Voilà, donc ça c'est pour le cannabis. Le tabac, là aussi, net recul, avec un quart de fumeurs quotidiens, donc 25,1% chez les jeunes de 17 ans, contre 32,4% en 2014. Alors, une baisse jamais vue depuis 20 ans. Je pense quand même, c'est pas noté, mais que le fait d'avoir interdit la vente aux mineurs y a été pour quelque chose. Donc ça, c'est notable. Et par effet de rebond, je dirais que si la cigarette arrive plus tard, le 1er juin arrive aussi plus tard. On avait remarqué cet état de fait dans différentes études où quand l'âge du 1er juin baissait, on voyait aussi l'âge de la première cigarette baisser d'autant et l'âge de la première cuite ou du premier verre baisser aussi. Il y avait tout un ensemble de critères qui filaient. C'était vraiment...
C'est lié, quoi, c'est ça que je veux dire.
C'est à peu près lié, c'est un peu substitutif. Alors, est-ce que c'est des paliers? Est-ce que c'est un cycle dans la vie? Est-ce que, voilà, c'est difficile à dire. Il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer ça. Donc, il y a les drogues légales qui arriveraient avant les illégales. Ça serait normal, parce que ça serait déjà une certaine transgression. Par rapport à la règle, puisque l'alcool c'est quand même une drogue, hein, quoi, c'est quand même interdit. Les cigarettes aussi.
L'alcool c'est interdit.
C'est quand même interdit pour les jeunes.
En principe.
En principe.
Ouais, enfin bon, sauf qu'on peut en acheter à peu près. Enfin, dans toutes les grandes surfaces, quel que soit l'âge qu'on a, on peut acheter de l'alcool.
Il est marqué partout dans toutes les grandes surfaces qu'il est interdit d'en vendre aux mineurs.
Oui, je suis d'accord. Enfin, moi, je suis pas certain qu'en France, comme aux États-Unis d'ailleurs, parce qu'aux États-Unis, c'est le cas quand quelqu'un qui a l'air jeune va dans
un supermarché,
on lui demande sa carte d'identité. Je suis pas sûr qu'en France, on fasse comme ça. Hein. Je ne l'ai jamais vu. Hein.
Moi, plus d'une fois, j'ai vu sortir des jeunes avec... avec des bouteilles, il n'y a pas de souci.
Voilà,
il
n'y
a pas de souci. Mais néanmoins, voilà, je dirais un peu moins qu'avant. Voilà,
oui, je suis d'accord.
Voilà, ça baisse. Après, c'est comme tout, c'est des lois qui vont contre les us et coutumes, donc elles ne changent pas facilement, quoi. L'alcool, donc là aussi demeure la substance la plus largement expérimentée, hein, chez les jeunes de 17 ans, 85,7% de la mais la consommation recule régulièrement depuis 15 ans à chaque nouvelle étude. Voilà, on avait baissé de 3 points depuis 2014 puisqu'on était à 89,3. Les buveurs réguliers aussi sont plus nombreux chez les garçons que chez les filles et sont aussi en repli, donc voilà, a priori dans l'ensemble des trois drogues les plus classiquement utilisées, il y a un léger recul, voilà, plus ou moins important, et surtout important pour le tabac, pour les raisons sans doute dont on a parlé tout à l'heure. Sur les autres drogues, puisqu'il y a aussi les autres drogues, donc là aussi il y a quand même un usage, hein, sur tout ce qui est ecstasy, MDMA, cocaïne, amphétamine, crack, champignons hallucinogènes, etc. Ils sont essayés par une minorité de jeunes, c'est 6,8% des adolescents de 17 ans sont concernés, contre 8,8% en 2014, donc une légère baisse là aussi. Hein.
De 2 points, oui.
De 2 points, et dans les usages détournés, les poppers sont expérimentés aussi par 8,8%, donc là aussi c'est vraiment un des seuls produits dont l'usage a augmenté, c'est doit être l'usage à la mode chez les ados.
Est-ce qu'on est passé de 5,5% à 8,8%, donc il y a quand même une augmentation assez importante, je trouve.
Voilà.
Mais bon, bref.
Et puis j'ai appris aussi un nouveau truc, un usage de purple drunk.
Oui, un mélange de sirop codéiné, antalgique et de soda. On en a déjà un petit peu parlé ici. Ouais.
Ah, d'accord.
Une fois. Voilà, un niveau atteint qui est proche de celui des poppers, 8,5% en ont consommé. Alors. Il y a un truc quand même qui est pas du tout dit dans cette étude, en tout cas que je n'ai pas vu. Après, je reconnais que je n'ai pas lu
l'étude
de A à Z. Les journalistes.
Fatigue. J'ai dû la lire qu'une seule fois une année. Hein.
Ouais. Alors, par exemple, ce qu'on n'a pas du tout entendu, que je n'ai pas lu, c'est ne serait-ce même que l'interrogation. Tiens, comment ça se fait que ça baisse, en fait? Alors, on a entendu. Moi, j'ai entendu des trucs d'ailleurs assez absurdes, hein, d'ailleurs, notamment la ministre de la Santé qui disait nos efforts finissent par porter leurs fruits, blablabla, les jeunes, à force de leur dire la prévention ça marche et ils consomment moins. Voilà, ce qui est tout à fait probable. Aux États-Unis, hein. Je pense que c'est quand même intéressant de s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis. On vous en parle suffisamment tous les lundis. Comme vous le savez, dans un certain nombre d'états, il y a eu une légalisation du thérapeutique et même du récréatif. Et il se trouve qu'aux États-Unis, ils sont en train de se rendre compte que, pareil, il y a une baisse chez les jeunes de la consommation d'un certain nombre de substances psychotropes, notamment des produits plutôt forts et de l'alcool également. Sauf que c'est pas parce que la prévention finit par porter ses fruits, pas du tout. L'addiction se déplace et aujourd'hui, ils sont en train de se rendre compte que beaucoup de jeunes, de plus en plus d'ailleurs, laissent tomber l'utilisation d'un certain nombre de drogues pour... T'as une idée ?
Non.
Pour bloquer sur les smartphones, les tablettes, les applications mobiles et tout ce qui sont de l'ordre des outils numériques. À tel point qu'aux États-Unis, aujourd'hui, tu as des experts en santé publique qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça et que c'est un problème de santé publique inédit, énorme, qui n'est même pas comparable à celui des drogues. Voilà. Donc, en France, moi, je ne vois pas pourquoi on serait bien différent. Et c'est une hypothèse que je formule. Hein. C'est une simple hypothèse. Hein. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est aussi une hypothèse. Hein. Ce sont des tendances qui devront être confirmées par plus d'études prochainement. Mais moi, je pense qu'en France, il peut y avoir aussi ce phénomène. Il y a déjà eu des reportages, des documentaires là-dessus qui en ont parlé et qui l'ont montré d'ailleurs, que beaucoup d'ados étaient vraiment accros à leur smartphone. C'est une des raisons qui pousserait un certain nombre de jeunes à abandonner l'utilisation de certaines substances pour se focaliser sur leur smartphone, les applis numériques, etc. Et que c'est extrêmement addictif, extrêmement addictif. Il y a un reportage qui a été diffusé là il y a quelques semaines et qui montrait comment toutes ces applications numériques bien fonctionnaient comme des drogues. Elles activent les mécanismes de la récompense dans le cerveau. Et c'est très comparable à l'utilisation de certaines substances, en fait. Voilà, parce que ça fait fonctionner les circuits de la récompense.
De la même façon.
Les endorphines, etc. Voilà. Donc, à mon avis, pas de quoi trop se réjouir, en fait. Voilà.
Ouais, de certaines baisses inexpliquées peuvent aussi venir de ce facteur-là.
Et moi, je pense que c'est plutôt ça, la réponse. C'est-à-dire qu'en fait, on observe plutôt un déplacement des conduites addictives de certaines substances vers d'autres. Alors là, c'est pas des substances, voilà, ce sont des...
Dans les êtres humains, il y a un certain pourcentage d'êtres humains qui a une conduite addictive plus que d'autres.
Alors là, ce qui montre justement, ce qu'il disait aux États-Unis, c'est que c'est pour ça que il disait que c'était plus dangereux. C'est pas moi qui le dis, hein.
C'est beaucoup
plus dangereux, c'est que les outils numériques, les applis sur smartphone et sur les tablettes et tout, ça peut rendre addict des très très jeunes enfants. Qui n'aurait pas forcément fumé du cannabis à 6 ans, quoi.
Oui, tout à fait. Et,
voilà.
Et si ça a les mêmes désastres sur leur cerveau en formation...
C'est ce qu'ils avaient tendance un peu à dire. Ouais.
Je ne sais pas ce que ça va donner pour plus tard.
Voilà. À suivre. Ensuite, alors, on va...
Je vais totalement de sujet, quoique plus ou moins, puisque c'est en France. C'est deux députés... L'un de la Creuse, non, c'est pas un député, lui, Éric Corriella, c'est un conseiller.
Corriella,
c'est juste un conseiller régional de la Nouvelle-Aquitaine. Donc, on en a parlé la semaine dernière, là, il est invité sur
Radio Nova.
C'est un ancien élu socialiste, quoi, c'est un élu socialiste, ça existe encore en Creuse, c'est normal.
Amoniste, on va dire.
Bref, il répond à Emmanuel Macron. Qui leur demandait de trouver des solutions pour dynamiser le département. Pour Éric Corriella, tout l'enjeu du cannabis...
Corriella.
Tout l'enjeu du cannabis thérapeutique est de faire en sorte qu'on puisse produire du chanvre, une plante dont la teneur en THC est diminuée, afin de ne pas avoir la neurotoxicité du cannabis. Mais juste tous les autres effets médicaux. Bon, on lui rappellera juste que le chanvre et le cannabis, c'est la même plante.
Ah oui, mais il y a encore beaucoup de travail.
Il trouve cette subtilité de langage pour essayer de pas faire une répétition du même mot. Mais il arrive à dire une bêtise, pour autant, voilà. Bref, en tout cas, il veut faire ça en Creuse, parce que c'est un département qui perd sa population. Un département en déprise qui fait l'actualité il y a quelque temps à travers une entreprise qui s'appelle GMS où il y a encore eu de la baisse. Donc il veut revitaliser la Creuse. Et pour ça, il fallait des propositions innovantes, même extra-légales, il propose de planter du chanvre thérapeutique. Voilà.
Mais je trouve ça très courageux de sa part de mettre ça sur la table et dans le débat public. Hein.
Tout à fait. Donc il continue, arrêtons cette hypocrisie. Je ne sais pas je ne suis pas sur le terrain de la morale. Je suis sur le terrain sanitaire. Il sait qu'avec le cannabis a de grandes vertus, surtout celle avec le CBD. Hein. Donc sans THC, celle avec le THC en a d'autres, celle avec des mélanges CBD, CTHC, d'autres avec d'autres cannabinoïdes aussi. Voilà, il y a beaucoup d'études à mener, en tout cas, il faudrait que les patients puissent tester différentes plantes pour savoir quelles sont les plantes qui leur sient le plus.
Faudra aussi leur expliquer à tous ces gens, et notamment à M. Corriella, que du chanvre qui contient beaucoup de CBD, s'il n'a que du CBD, pas de THC, c'est inefficace d'un point de vue sanitaire pour traiter des affections. Si ça marche, c'est parce qu'il y a toujours un peu de THC. Voilà. Je sais pas s'il le sait, il le sait peut-être, mais bon, ça, c'est quand même important de le dire. Faut pas non plus vouer aux gémonies le THC, quoi. Enfin...
Voilà. Bon, en tout cas, l'article part de cette conclusion, rajoute que Colomb voulait mettre une contravention forfaitaire pour usage de stupéfiants, et il finit un premier pas vers une dépénalisation, voire une légalisation, point d'interrogation. Bon, en tout cas, ça fait avancer le schmilblick et le débat, on verra bien où ça ira. Et si l'on a testé la légalisation du cannabis? C'est dans Ouest-France.
Voilà, là, ça se passe dans l'Orne.
Et c'est dans l'Orne.
C'est un autre député qui s'appelle Joachim Pueyo.
Voilà, donc lui, une fois par trimestre, il fait des débats, des réunions, et il laisse parler les gens, tout ça, plein de choses, il prend les idées. Et donc, dans tout ça, il y en a un...
L'animateur d'émission de radio, Radio Pulse, dans l'Orne, justement. Tony Touillet,
voilà,
dit-il.
Voilà, donc il dit...
À Alençon.
Qui est salarié dans la radio, donc en chaîne, avec mon travail, je suis en contact avec la jeunesse, je recueille leurs confidences. Si vous voulez qu'il y ait plus de jeunes, j'ai une proposition simple. Je trouve qu'il serait intéressant que l'Orne soit le département test pour la légalisation du cannabis. Je regrette de rencontrer des jeunes qui commencent leur vie d'adulte avec un casier judiciaire. Alors le député répond, oh bah c'est pas une question idiote, j'ai jamais été fumeur, mais je suis quand même ouvert à cette problématique. La France compte 11 millions de consommateurs réguliers alors qu'elle est très répressive. Le répressif ne marche pas, pour autant je suis pour la prévention, pour prévenir des conséquences. Je prends cette proposition qui paraît provocante, elle ne l'est pas, ça peut être un atelier au sein du Conseil constitutionnel citoyen
consultatif
citoyen avec plusieurs témoins pour ou contre. J'espère qu'on va pouvoir attirer des jeunes avec ce conseil.
Voilà, donc là aussi un élu un peu courageux, on va dire.
Voilà, bon, pour l'instant il rejette à une autre réunion identique avec ça à l'ordre du jour.
Oui, mais enfin il aurait pu dire non c'est interdit, il n'y a pas de débat, comme beaucoup de politiques comme sur cette position là hein. Donc bon, je trouve ça pas mal déjà. Voilà.
Ok, qu'est-ce qu'on sait ? Une petite
pause musicale encore, une petite rapide alors, ce qui est quand même 9h25.
Ouais, une petite... même pas, je sais même pas ce que c'est. Attention, on va voir. Attention,
je crains le pire.
Je tire une taffe.
À 21h sur Radio Canu.
J'avale.
Cannabis.
Cannabis Circus.
Voilà, ah,
c'était une toute petite pause alors.
C'était juste une toute petite pause.
Petite pub pour nous en plus.
Voilà, juste pour attaquer l'humanité, un grand article avec 5 personnes qui causent là-dedans.
Et pas des moindres. Des gens intéressants.
Voilà comment donc la contravention pour usage de cannabis est-elle une réponse adaptée, point d'interrogation. Donc, c'est l'humanité du 1er février. Après l'amende forfaitaire, c'est ce que préconise un rapport parlementaire pour sanctionner les consommateurs et recentrer le travail de la police sur la lutte contre le trafic. Donc c'est assez bien résumé, hein. Il faut lire donc le point de vue des différentes personnes. Donc le premier, c'est Bernard Basset, pour lequel c'est à côté de la plaque. Bernard Basset, lui, il est vice-président de l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie.
Voilà, l'ANPA.
L'ANPA.
Association bien connue en France sur ce champ d'activité, d'études. Voilà, l'ANPA, oui. Très connue.
Donc, lui résume les choses assez rapidement. Il dit que c'est ce qu'on vous a raconté. Hein. Ils sont venus en posant des questions très orientées pour la contraventionnalisation ou contre. Donc, ça s'est plutôt mal passé. Et c'est pourquoi les deux parlementaires se sont trouvés dans une relative impasse, incapables de définir des axes d'une politique de lutte contre les addictions. Ils ont été réduits à justifier la contraventionnalisation par le seul objectif de rationalisation des ressources humaines des policiers et des juges. Et encore, voilà, c'est la seule chose qui est intéressante dans la loi et la contraventionnalisation, c'est que ça, les flics et les juges gagnent du temps, et les juges transfèrent leur pouvoir, mais ça, on va revenir là-dessus dans quelques temps. Mais je crois que c'est vraiment la seule chose pour l'État, c'est la seule chose qui gagne. Rajoute quand même Bernard Basset, cette proposition petit bras risque fort d'être inopérante tout en laissant un marché lucratif à des réseaux criminels. puisque voilà, comme il dit, les dealers, ils vont continuer puisqu'il y a toujours la prohibition.
Bah, il dit oui, et puis il dit surtout c'est qu'ils sont pas fous et qu'ils s'adaptent aux menaces de contrôle et de pression, et que bah ils ont arrêté de faire du business dans les quartiers, dans les cages d'escalier, ou en tout cas ils le font moins, et que maintenant ils livrent de plus en plus sur commande. Et en ça, ce que dit donc Bernard Basset, bah, il confirme hein, l'interview du dealer là dans Vice.com là dont on parlera juste après. Donc voilà, oui, les petites mains du trafic vont s'adapter.
Voilà, donc voilà, ça change. Donc il y a de moins en moins de trafic de rue. Le constat actuel est plutôt que les contrôles se font aussi dans les quartiers défavorisés, sur une jeunesse souvent en situation de précarité, plutôt que dans les lycées des beaux quartiers qui consomment tout autant. Bon, ça, il l'avait déjà dit et on l'avait déjà repris dans un autre article. Je pense que c'est la même personne qui le disait. Voilà. Enfin, plus dommageable, la proposition de contraventionnalisation remplace le débat nécessaire sur une politique de santé publique sur les addictions que d'autres pays mènent courageusement et sans tabou. Le constat est universel et indiscuté, il n'y a pas de société sans drogue. Ça fait toujours du bien de le rappeler. Merci, monsieur Bernard Basset. Voilà, comme tout produit psychoactif, c'est aussi le cas de l'acte de l'alcool, également fortement consommé, les conséquences sur un cerveau en phase de maturation ne peuvent être favorables. De plus en plus d'études soulignent les conséquences négatives sur l'apprentissage, sur les performances scolaires. Ça fait plaisir aussi d'entendre l'alcool comme le cannabis, quand même plus que le cannabis. Lui, il est cité, le cannabis, il est dans les produits psychoactifs. Donc, c'est des choses complètes, c'est bien. Donc, et donc, la contraventionnalisation n'y répondra en aucune manière. Voilà, donc, il dit qu'il faudrait faire, comme dans d'autres pays, passer à la régulation d'un marché officiel. Ce cadre offrirait la possibilité de surveiller la distribution, de contrôler, de limiter la teneur en principe actif, d'avoir une politique de prix via les taxes, d'interdire réellement la vente aux mineurs et d'informer sur les risques de produits bien définis, sans compter le bénéfice sécuritaire par l'assèchement de l'économie souterraine. Voilà, moi je remercie Bernard Basset, je trouve que voilà, j'ai enlevé deux trois petits passages.
Non, c'est parce que tous ceux qui sont interviewés, Béatrice Tamboul après.
On y arrive.
Je trouve que c'est Dotzenberg qui dit des choses les moins intéressantes.
Qui trouve que c'est une disposition timorée. Donc, elle est co-initiatrice de l'appel de Marseille sur une légalisation contrôlée du cannabis. Donc voilà, elle est psychiatre par ailleurs.
Oui, c'est une personnalité de la réduction des risques en France, Béatrice Tamboulin.
Voilà, présenté comme une approche simplifiée et innovante, ce projet, donc le projet de loi sur la contraventionnalisation, se révèle à l'étude inapproprié et inefficace au vu de l'enjeu des problèmes. Voilà, conserver une pénalisation de l'utilisation révèle une vision archaïque, moralisante et inopérante de la question. Ah, bon, on va continuer. Alléguer de la dangerosité de la substance pour maintenir la prohibition relève de la croyance plutôt que d'une politique fondée sur des preuves. Donc après, elle rappelle toutes les dangerosités des produits dangereux parce qu'ils sont illégaux et donc parce qu'ils sont coupés, parce qu'ils sont frelatés. Voilà, donc pourtant cette proposition, la proposition de dépénalisation ne va pas toucher au trafic et à ces multiples dommages collatéraux, donc en plus des dangers sanitaires pour les utilisateurs, il y a aussi les règlements de compte qui devraient être la priorité de nos dirigeants. La guerre à la drogue se double souvent d'une guerre raciale dont les jeunes des quartiers sont issus. Dont les jeunes des quartiers sont les principaux, font les frais, donc, et en particulier ceux qui sont issus de l'immigration.
Ouais, elle parle même de bouc émissaire qu'on leur fait porter. Hein. Ils ont un rôle de bouc émissaire.
Voilà, et enfin, elle finit par dire, il faut poser la question du droit des gens qui consomment, en finir avec la stigmatisation dont ils sont l'objet, le rôle de bouc émissaire qu'on leur fait porter. On allègue la punition, mais on condamne toujours, on discrimine. Il fallait une mesure utile et efficace, la légalisation contrôlée, comme en Uruguay, et comme dans plusieurs États des États-Unis et bientôt au Canada. Voilà, notre gouvernement n'a eu ni le courage ni l'intelligence de le faire. Voilà, on passe maintenant à Bernard Dotzenberg, qui lui est un...
Bertrand Dotzenberg,
qui lui est praticien hospitalier, donc pour lui, l'instauration d'une amende pénale est acceptable.
À minima, on va dire.
À minima, voilà. Donc lui, il explique que dans toute solution, il y a des avantages, des inconvénients et dépend des sous-priorités de chacun des acteurs, même si l'objectif final, réduire la consommation et la dangerosité du cannabis, est partagé par la plus grande majorité des Français. Voilà, donc lui commence par silence place du côté de la justice et de la police. Donc évidemment, en partant de là-dessus, on voit un petit peu tous les avantages qu'il y a à la contraventionnalisation. Et je ne vais pas revenir là-dessus, on en a un petit peu parlé. Mais par ailleurs, pour les consommateurs, cette mesure, si elle est appliquée correctement, peut faire régresser le sentiment d'impunité en remplaçant une sanction théorique inappliquée par une mesure bien réelle. Elle peut aussi déclencher un changement de comportement, arrêt de consommation ou adoption de règles pour moins consommer ou moins transporter le cannabis sur la voie publique. Voilà, pour le médecin, cette amende pénale pour consommation de cannabis ne fait pas espérer d'effets positifs ou craindre d'effets négatifs. Tout dépendra de l'application. Voilà, mais il finit quand même. La légalisation du cannabis serait la seule mesure qui permettrait réellement de faire régresser la consommation si elle était conduite avec un pilotage santé publique. Mais le cheminement vers la légalisation contrôlée au nom de la santé publique nécessite du temps. L'instauration d'une amende pénale est acceptable car elle ne va pas contre cet objectif de réduction de consommation et donc des méfaits du cannabis. Ouais.
Non, oui, c'est un minima. Je pense que le connaissant un tout petit peu, on peut pas se permettre de dire qu'on le connaît bien, Dotzenberg, mais on a quand même lu plusieurs fois des interviews de lui. Je pense que il est pas satisfait. Il aurait voulu. Lui, c'est quelqu'un qui est carrément partisan de la légalisation. Il l'a dit plusieurs fois. Voilà. Après. Ce qu'il dit, c'est que lui, il voit pas ça comme une surenchère dans la répression. Il dit, voilà, à partir du moment où on se dirige plutôt vers une attitude qui pourrait faire baisser la consommation, il est plutôt pas trop contre. Il dit c'est acceptable. Bon, je sais pas si le terme est bien choisi. Voilà.
Ouais.
Bon, mais voilà, c'est quelqu'un qui est pour la légalisation.
Renaud Colson. Allez, quatrième, Renaud Colson, un toilettage législatif.
Voilà, quelqu'un qui est maître de droit, maître de conférence en droit à l'Université de Nantes. Voilà.
Alors, est-ce qu'on explique un petit peu le pourquoi il va y avoir ce transfert de pouvoir de la justice vers la police ?
Je t'en prie.
Donc, la consommation illicite de drogue conservera le caractère d'une infraction délictuelle passible d'un an de prison, mais les forces de l'ordre disposeront du pouvoir discrétionnaire de prononcer une amende en lieu et place de la procédure judiciaire aujourd'hui requise. Cette peine pécuniaire infligée par un policier ou un gendarme se substituera, le cas échéant, à la réponse pénale ou sanitaire, théoriquement individualisée, ordonnée par le magistrat. La vaste majorité des usagers du cannabis pris dans les raies du système pénal et qui font aujourd'hui l'objet d'un simple rappel à la loi, d'un stage de sensibilité au danger de l'usage de produits stupéfiants ou une injonction de soins, se verront ainsi désormais imposer une sanction financière. Le montant de l'amende, probablement aux alentours de 200, voilà.
200 ou 200 euros?
Voilà, pour tout le monde et tout ça. Et les modalités de son paiement ne pourront même pas être aménagées. Donc on ne peut pas spéculer sur les effets d'une telle réforme, mais on peut raisonnablement supposer qu'ils seront marginaux.
Ils seront marginaux.
Voilà, sous couvert de réaffirmer l'interdit pénal, le projet gouvernemental aboutit à donner au délit d'usage de stupéfiants le visage d'une modeste contravention sanctionnée automatiquement par les forces de l'ordre sans médiation judiciaire, le juge étant exclu de facto de la procédure. Ce transfert de pouvoir de la justice vers la police constitue sans doute la conséquence la plus remarquable, mais également la plus discutable, de la réforme projetée. Voilà, quand même, ce qu'il faut noter, je pense, dans tout ce qu'il a dit, ce cher Renaud Colson. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Bon, il existe certes quelques mauvaises raisons de simplifier la procédure de sanction de l'usage des stupéfiants. Ça permet d'un côté de la satisfaction statistique d'élucider à l'infini des infractions sans victime, se double de la perspective de juteuse rentrée d'argent. Mais bon, pour si l'objectif est bien de lutter contre le fléau des addicts, des addictions, il y a d'autres choses qui doivent être envisagées.
Et qui sont plus efficaces.
Et qui seraient plus efficaces.
De là, voilà, ils citent le Portugal, les Pays-Bas, de nombreux États d'Amérique qui expérimentent autre chose.
Voilà, et qui mettent l'accent de la prévention et sur la réduction des risques liés à la consommation des drogues plutôt que sur la pénalisation. Voilà, donc... là-dessus, c'est presque, donc c'est un toilettage législatif qui, sous couvert d'adaptation de la loi Auréal, opte pour une sanction automatique de tous les consommateurs de drogue et l'abandon des toxicomanes à leur fragilité. Voilà la conclusion de Renaud Colson. Le dernier, c'est Benjamin Jeanroy.
Responsable du réseau ECHO. Voilà, un collectif qui se bat et qui milite pour la légalisation. C'est lui qui dit les choses les plus intéressantes d'ailleurs.
Ah, ben, je vais te laisser un peu. Bon, c'est vrai qu'il rappelle le Canada qui va réguler son marché pour adultes en juillet 2018 et qui rappelle, moi j'ai noté ça d'intéressant dedans, que dans cette régulation, elle va permettre aux personnes qui ont été injustement touchées par la prohibition, principalement les communautés hispanophobes et afro-américaines,
hispanophones
oui. et afro-américaines, de participer pleinement à cette nouvelle industrie.
Voilà.
Alors, je ne sais pas comment, mais bon, en tout cas, c'est noté.
Bah, si, on en a parlé la semaine dernière. Ils effacent les casiers judiciaires.
Oui, mais ça, c'est pas au Canada.
Aux États-Unis,
oui. Non, ça, c'est en Californie.
Oui, ils parlent de la Californie, là.
Excuse-moi, c'est moi qui ai lu trop vite tout à l'heure. J'avais raté la Californie au passage.
Et du coup, c'est intéressant. Il dit même où quand une politique publique peut aussi être synonyme de justice réparatrice. Voilà. Et voilà, ce qu'il dit après, c'est tout à fait vrai. Il dit, en attendant, la France n'ose même pas prononcer les mots de cannabis médical. Eh oui, il ne faut surtout pas le dire. Et là, il donne des exemples intéressants, les exemples de nos voisins européens qui sont passés, qui sont allés un peu plus loin quand même. Et donc de nous citer l'Allemagne qui rembourse les traitements pour 13 000 malades. L'Israël, pays pionnier sur la recherche scientifique, et notamment sur la recherche scientifique pour mettre au point des variétés de plantes richement dosées en CBD. Donc l'Israël qui a lancé plus de 120 études cliniques sur ses applications thérapeutiques, tout en visant le milliard d'euros d'exportation et en permettant de soigner plus de 50 000 personnes. En France, les malades vont encore en prison. Donc c'est très bien de le dire.
Faut-il alors couler derrière ce nouvel Eldorado ? Non, certes pas. Bah si, on creuse, il y en a qui le font.
Alors, oui, bon, peut-être qu'il ne veut pas...
Voilà, donc il rappelle quand même tout ce qu'on pourrait faire, hein, si on s'y mettait, toutes les start-up qu'il pourrait y avoir, avec toutes les utilisations qu'il y a autour du chanvre, sans parler de l'agriculture, le commerce, etc. etc. Hein. Le gouvernement est aujourd'hui terrorisé à l'idée d'être accusé de laxiste sur cette question, donc sur la légalisation, pour lui, si on fait ça, c'est du laxisme, forcément, alors que s'il fait fausse route... dit Benjamin Jeanroy. En la matière, c'est la politique actuellement qui est profondément laxiste, sous-traitant aux trafiquants un marché en pleine expansion. Voilà, la prévention est la seule méthode efficace, et donc avec la légalisation, on fait de la prévention et on a de bons résultats. En mettant, et lui, il conclut, il est peut-être un petit peu... un petit peu optimiste, l'ami l'ami que... Benjamin Jeroy, parce qu'il conclut en mettant toutes les parties prenantes autour d'une table, médecins, policiers, familles, associations, usagers, juges, universitaires, trafiquants repentis, nous parviendrons à écrire une nouvelle feuille de route proprement française, ambitieuse et porteuse d'espoir.
C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faudra faire à un moment. Voilà.
D'accord.
Bah oui, au bout d'un moment, à un moment, un jour ou l'autre, il faudra bien s'asseoir autour d'une table et puis, réfléchir à la mise en place de nouveaux dispositifs, d'une nouvelle loi qui ne soit pas basée sur la répression.
On a 7 minutes, on va se faire vite fait la nouvelle légalisation sur le cannabis expliquée par un dealer.
La nouvelle législation. Légalisation, on n'y est pas encore. Donc c'est Karim, hein, c'est un nom d'emprunt, bien entendu.
À 21h sur Radio Canu.
Jabal.
Cannabis.
Cannabis Circus.
Oui, donc voilà, comme je vous disais, c'est une interview de dans Vice.com, l'interview de Karim. Donc c'est un prénom d'emprunt, bien sûr. Karim qui est vendeur. Moi, je n'aime pas le terme dealer. Qui est un vendeur itinérant de cannabis, de fleurs de cannabis. Voilà, depuis une dizaine d'années, Karim sillonne la capitale et la banlieue avec dans son sac à dos Eastpak un Tupperware bourré à craquer de pochons de weed de 20, 30 à 50 euros pièce. Et alors que la législation du cannabis est en passe de s'assouplir, ils n'arrêtent pas de dire ça à tous, mais bon, faut qu'ils arrêtent parce que c'est pas vrai. Donc, les journalistes de Vice sont allés demander à Karim, en l'occurrence, ce qu'une telle évolution changerait au quotidien des dealers de weed. Voilà. Anonymat, évidemment, ouais. Pourquoi ? Bah parce que même si la législation s'est assouplie, selon les journalistes, hein, parce que à mon avis, c'est pas vrai, l'ami Karim, lui, risque une très lourde peine parce qu'il n'est pas qu'un simple consommateur, bien entendu. Alors, première question posée à Karim, le rapport n'est officiellement rendu public que ce mercredi, mais depuis une semaine, des informations ont fuité dans la presse à propos d'un assouplissement de la législation sur le cannabis. Est-ce que tu en as entendu parler ? Cher Karim, il répond, oui, j'ai vu ça sur mon téléphone et mes clients m'en ont aussi beaucoup parlé. On dirait que tout le monde veut connaître mon avis. C'est marrant. Franchement, moi, ça me gonfle un peu parce que pendant les dernières élections, personne ne m'a demandé pour qui j'allais voter. Mais quand ça parle de fume, là, on se dit, tiens, Karim, il a peut-être un cerveau avec des idées dedans. Voilà. Bref, tout ce que je peux dire, c'est qu'en vrai, je n'ai rien compris à cette histoire. Sur les réseaux, j'ai lu tout et son contraire. Par exemple, il y a des gens qui disent que maintenant la weed va être légalisée, mais moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai lu. Et il y a aussi d'autres gens et d'autres articles qui disent que ça ne changera rien. T'as compris quoi, toi, hein ? Et le journaliste de renchérir et de lui dire, en gros, voilà, le rapport propose que la consommation de cannabis soit punie d'une amende d'environ 200 euros et non plus passible d'une peine de prison. Quelles seraient les conséquences pour toi ? Et là, il répond, mais c'est tout, ça change rien alors. Il dit, je n'ai jamais vu un mec prendre un an de tôle pour avoir fumé un joint. En France, je veux dire, pas en Thaïlande ou en Turquie, hein, des pays qui craignent vraiment sur ces questions-là. Du coup, je comprends encore moins pourquoi les gens se chauffent là-dessus. Ça fait belle lurette que cette loi qui punit soi-disant les consommateurs d'un an de prison n'est pas appliquée. Tout le monde le sait. Les flics autant que les consommateurs. En fait, la loi va changer pour que les flics aient officiellement le droit de faire ce qu'ils font déjà. Ramener les petits qui bédavent au commissariat, les faire flipper un bon coup et les laisser partir parce qu'ils ont autre chose à foutre que de se taper de la paperasse pour trois pauvres gamins. Voilà. Mais officiellement...
C'est à peu près ça. Hein ?
C'est à peu près ça. Sauf que quand même, encore une fois, on rappelle qu'il y a à peu près un millier d'usagers simples qui se retrouvent en prison tous les ans. Et sur 10 ans, 20 ans, ça fait beaucoup de monde.
Sur
en
les
fait.
140 000 gardes à vue, oui.
Voilà. Mais officiellement, tes clients à toi, ils risqueront moins. Est-ce que c'est une bonne chose pour ton business ? Pas vraiment, hein. Moi, ça fait longtemps que je ne vends plus dans la rue, ni à des gens qui fument dans la rue d'ailleurs. Hein. Maintenant, je fais du DOM. On m'envoie un texto à l'adresse, avec l'adresse, et je déboule dans les 2 heures. Aujourd'hui, avec WhatsApp, c'est hyper safe. Plus besoin de se prendre la tête à attendre dans le froid comme un connard. Faut juste changer régulièrement de numéro. Tous les autres dealers que je connais s'y sont mis. Bien sûr, il y a toujours des fours dans certains quartiers. Des halls d'immeubles où les clients viennent directement. Mais moi, je suis plus dans ce business-là. Peut-être que pour eux, ça change quelque chose. Encore que les flics savent très bien où sont les fours et s'ils ne descendent pas là-bas, c'est qu'il y a une raison. Et pour quelle raison, selon toi, les flics ne font rien pour fermer ces fours ? bah, ils savent que ça ne sert à rien. Ils vont choper quoi ? Deux, trois petites mains qui seront remplacées dès le lendemain. La main d'œuvre, ce n'est pas ce qui manque dans les cités, donc je crois qu'ils préfèrent laisser les choses se faire pour choper les gros poissons. Mais les gros poissons, ils ne sont pas cons, ils ne viennent pas souvent dans le quartier. Mais toi, personnellement, est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec la police ? Alors, j'ai eu des galères quand j'étais plus jeune, je prenais trop de risques, je conduisais trop vite, par exemple, donc ça attirait l'attention des flics, et là, bingo, je me faisais serrer comme un clampin. Aujourd'hui, j'ai presque 30 ans, je suis plus malin, je conduis tranquille, je suis bien sapé, je tiens la porte aux mamies quand j'attends le client dans la cage d'escalier, bref, j'ai appris à me fondre dans la masse. Même quand je vais dans les quartiers chics, on me prend plus pour un livreur de bouffe que pour un dealer. Merci Deliveroo. Ces livraisons à domicile, bah c'est un job à plein temps. Oui, je suis dispo 7 jours sur 7. Je commence en fin d'après-midi et j'enchaîne jusqu'à minuit ou 1h du mat. Je me ferais plus de blé si je continuais toute la nuit, mais j'ai plus trop envie. La nuit, les gens sont trop bourrés, trop flingués. Passé une certaine heure, beaucoup ne savent plus se tenir. Les petits jeunes qui dégueulent sur le tapis pendant que tu sors ton matos, c'est saoulant à force. Donc vers 1h, j'éteins mon téléphone. À un moment, j'avais pris des mecs pour me remplacer pour le service de nuit. Mais c'est trop de galère. Blablabla. Bon, je vais avancer parce que là, c'est pas forcément le plus intéressant.
Ouais, il explique que les gens, ils ont l'habitude de voir sa gueule, donc ils aiment pas en voir des nouveaux.
Voilà.
Et puis c'est compliqué. Et puis, il faudrait fliquer les gens pour voir comment ça se marche,
etc. S'ils travaillent bien, s'ils font pas les cons et tout, voilà.
Donc bon. Ça fait chier.
Alors là, du coup,
Ils préfèrent fermer.
Voilà, ils préfèrent fermer. Donc, le journaliste lui relance et lui dit, bah, tu parles un peu comme un chef d'entreprise. Est-ce que t'es favorable à une légalisation du cannabis qui permettrait d'ouvrir un vrai commerce, par exemple? Et là, il a une réponse qui est, je dirais, très appropriée vu ce qui se passe dans notre pays. Il dit comme ça, bah, c'est très compliqué comme question. Bien sûr que, comme tous les dealers de weed, j'ai fantasmé à mort en allant à Amsterdam. On s'est tous dit un jour qu'on ouvrirait bien un petit coffee shop à la cool avec du reggae en fond sonore et une vue sur les canaux. Se dire qu'on pourrait faire comme ça en France, ça fait rêver, c'est sûr. Mais en vrai, si la France légalisait la beuh, ça ne se passerait pas comme ça. Depuis la légalisation en Californie, il y a de grosses multinationales qui se sont mises sur le coup. Alors elles trusteraient le marché français en 2 secondes. Elles implanteraient de grosses structures et casseraient les prix. Bref, ça serait la mort du petit commerce. Pour faire une comparaison chelou, moi je me vois comme le petit épicier du coin et on le sait bien, quand un gros Carrefour s'installe dans le secteur, les petits magasins prennent cher. Donc tu veux dire que les dealers ne profiteraient pas d'une légalisation ? Je veux dire que la légalisation ne bénéficierait pas aux gens comme moi, ceux qui viennent du ghetto. Les gros businessmen de la weed n'embaucheront jamais les mecs de mon quartier. Ils prendront justement des mecs qui n'ont pas l'air de sortir de leur cité pour donner un côté classe à leur business. Au final, les mecs comme moi se feront bien niquer. On n'aura pas de taf au carrefour de la weed, mais 80% de nos clients iront se fournir là-bas. Ça sera un gros bordel. Parce que dans mon quartier, par exemple, si tu enlèves aux jeunes le petit billet qu'ils se font grâce aux bises, bah, ils vont plonger dans la misère sociale. Ce petit billet, comme je l'appelle, c'est ce qui leur maintient la tête hors de l'eau. Si tu enlèves aux cités l'argent du bise, les gens n'auront vraiment plus rien. Et ce sera l'émeute. Je suis sérieux. T'as vu la violence dans les supermarchés pour la promo sur le Nutella. Chez moi, les mamans sont devenues ouf. Il n'en faut pas beaucoup pour que ça craque. Alors franchement, laissons le bise comme il est. Si on légalise, les mecs comme moi n'auront même pas une part du gâteau. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la loi du capitalisme. Voilà. C'est dommage que le journaliste de Vice lui ait pas dit mais non, il y a un espoir, regarde en Californie, regarde à Oakland, on enlève le casier judiciaire des gens qui ont été poursuivis pour des infractions liées à la drogue. Et à Oakland, encore une fois, ils sont prioritaires pour ouvrir des commerces de weed parce qu'ils sont dans l'activité depuis longtemps, etc. Et c'est ça qu'il faudra faire en France, absolument insister là-dessus. Il y a des gens qui ont compris. Dotzenberg l'a compris, par exemple, mais il n'est pas le seul. Et c'est vers ça qu'il faudra tendre.
Voilà, bah c'est comme ça qu'on va s'arrêter parce que c'est déjà tard.
On n'en est qu'à la page 7
sur nos 12 pages, mais comme on en avait vu 2, on a quand même vu plus de la moitié, on en a vu 9 sur 12.
Ouais,
C'est déjà pas mal. Donc il y a plein de choses, on verra pas tout les articles de Vice.com.
La semaine prochaine, on essaiera de reparler de l'interview d'Emmanuel Auriol, qui est économiste et qui elle aussi préconise une légalisation du cannabis, qui dit des choses assez intéressantes. On n'a pas eu le temps de parler du fils Sarkozy qui est pour la légalisation et qui a donné son avis dans un journal hyper conservateur américain qui s'appelle The Washington Examiner et qui, en plus de ça, publie également des articles dans Breitbart, qui est un journal d'extrême droite américain. Donc voilà, c'est assez hallucinant, mais même les puréacs sont pour la légalisation maintenant. Alors.
Voilà, et puis on ira voir aussi les Canadiens qui sont pour la légalisation de tous les produits, c'est là-dessus qu'ils travaillent maintenant.
Quelqu'un me fait un signe en me disant ouais, ils sont pour, mais parce qu'il y a du fric derrière, et c'est clair, de toute façon c'est pour le pognon et le business quoi. C'est sûr, on est bien d'accord. Allez, c'est la fin de Cannabis Circus ce soir, lundi 12 février. Et maintenant, c'est Chasseurs de Sons, et ils sont tous prêts, ils sont tous là, et ça va pulser jusque tard dans la nuit. Allez, maintenant, Chasseurs de Sons, à la semaine prochaine, au revoir.
Allez, ciao à tous, fumez bien, fumez ça.